Chapitre 5. Au bout d'une heure de marche aveugle, elle avait en partie récupéré ses esprits. Les poings au fond des poches, elle s'efforça au calme et tenta de dresser un bilan réaliste de la situation. Il était désormais hors de question qu'elle retournât chez elle, du moins pendant un bon moment. L'hôtel, quant à lui, ne présentait pas plus de garanties. Sa photo publiée dans la presse du soir suffirait à faire d'elle le point de mire de tous les indicateurs. À peine serait-elle assise sur son lit que Cazel, ou les autres, posséderaient déjà sa nouvelle adresse. Et les autres lui faisaient encore plus peur que la police. Elle avait pu expérimenter un échantillon de leurs procédés, elle ne tenait pas à recommencer de sitôt. Ce fut en croisant une prostituée gainée par un coûteux costume de cuir noir qu'elle entrevit l'embryon d'une solution. Comme les pseudo-voyous, il s'agissait d'un robot gracieusement mis à la disposition des habitants du parc résidentiel par les services culturels de la municipalité. Ainsi, les privilégiés de la luxueuse cité pouvaient-ils s'encanailler à loisir sans courir le risque d'attraper une maladie vénérienne ou de se retrouver rançonnés par un quelconque maquereau. On ne payait jamais, un soliste virtuose le lui avait expliqué. L'entretien des androïdes était simplement ajouté au montant des impôts locaux, comme n'importe quel service public. Elle s'y s'arrêta, considéra la grande fille blonde aux cheveux coupés en brosse. Les esthéticiens du bureau cybernétique s'étaient appliqués à lui donner un air vulgaire et une bouche molle. Sa combinaison de cuir lacé laissait entrevoir la toison acrylique d'un pubis insolemment bombé. Elle cligna de l'œil et s'approcha de l'habilleuse en se passant plusieurs fois la langue sur les lèvres. « Alors, petite fille, on cherche la cajole? Pas envie du rutrude au piston dressé? Missy comprend ça. Missy sait faire la douce. Missy connaît la langue de velours et le doigt trépideur. Si tu veux venir... » Elle s'y acquiesça. L'autre lui prit le bras et se pencha à son oreille. « Tu me plais. Mais connais-tu le mot de passe ?» Elsie s'écarta, fouilla dans son sac, comprenant que la machine venait de lui demander de justifier son appartenance au bloc résidentiel. Par bonheur, elle avait conservé le jeton magnétique qu'on lui avait remis à l'agence au moment de la signature du bail. Il s'agissait d'un disque métallique codé, équivalent à un véritable coupe-fil, et strictement réservé aux seuls résidents du quartier. Grâce à lui, on pouvait accéder à tous les services de la cité élective, alors que ces mêmes services restaient obstinément fermés aux habitants des quartiers voisins, dont la population était principalement composée de gens du commun. Sans disque, la cabine du visiophone refusait de se mettre en marche, le taxi automatique de démarrer et la porte des toilettes publiques de s'ouvrir. Ainsi, il n'y a pas de mélange, avait expliqué l'agent immobilier avec un sourire onctueux. « Chacun a sa place. C'est le secret de la tranquillité. Chacun a sa place et tout va bien. » Elle finit par trouver le jeton doré et le glissa dans la paume de la dénommée Missy. Il y eut un bref cliquetis d'enregistrement. « On y va !» souffla la fille de cuir. « Prépare-toi à chanter la chanson des cuisses écartées. » Tu vas voir comme je suis bonne maîtresse de chorale. » Elsie ne prêta aucune attention à ce babillage enregistré. À présent, son cerveau tournait à toute vitesse pour trouver le moyen d'occuper le local du robot un temps maximum. Elle n'en savait rien, mais il était probable que les ébats restaient limités à une nuit. Ce n'était pas assez pour récupérer et prendre une décision. Elle jura entre ses dents. Sa compagne la fit pénétrer dans un immeuble cossu, puis dans un studio dont la pauvreté contrastait étrangement avec le tapis rouge de l'escalier et les dorures de lambris du hall. D'abord stupéfaite, elle s'y comprit que les décorateurs s'étaient appliqués à recomposer le décor type d'une chambre de passe. Rien ne manquait, ni le dessus de lit semé de taches douteuses, ni le bidet avec sa serviette grise de crasse et son pain de savon. Au-dessus de la couche, une plaque d'émail avait été vissée, énumérant un certain nombre de règles. La jeune fille en lut quelques extraits. Tous les objets contenus dans ce local sont rigoureusement aseptisés après utilisation. C'est donc en pleine confiance que vous pouvez en user. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que les coûts supérieurs à un impact de 3 kg au centimètre carré ont tendance à endommager le robot de service. En cas de panne, sortez en tirant la porte derrière vous. L'unité de plaisir s'auto-réparera dans un délai de 24 heures. Nous vous laissons le soin d'apprécier la magnifique reconstitution à laquelle se sont livrés nos experts et qui crée l'ambiance d'une chambre d'hôtel borgne des années 50 à Montparnasse, Paris, France, Terre. Avec nos meilleurs souhaits de détente. Laisse-toi faire, chuchota Missy, je vais te déshabiller. Elle fit glisser l'imperméable, ôta la robe et allongea Elsie sur le lit pour lui enlever sa culotte. À cette occasion, la jeune fille vit que les draps et l'oreiller étaient frappés d'une inscription au fil bleu. Propriété du ministère de la Culture. Suivait un numéro incompréhensible. « Viens, je vais te laver. » Elle s'abandonna, essayant de ne pas regarder les excroissances brunes qui pointillaient désormais la peau de son ventre. Missy s'acquitta de sa tâche avec une infinie douceur. « Je peux rester combien de temps ?» s'enquit Elsie. « Pas au-delà de demain matin, 10 heures, mon chou. Après, on désinfecte en gazant la pièce, tu serais intoxiqué. Je ne fais qu'un client par nuit. Qualité avant tout. » Dès qu'il y a deux corps sur ce lit, un voyant s'allume à la porte, indiquant que je suis occupée jusqu'au lendemain soir. « Et si tu tombes en panne ?»« Ça arrive, surtout avec les sadiques. Tu me laisses où je suis et tu pars sans te soucier de rien. Il n'y a pas d'amende pour détérioration. » Le coût de la remise en état est facturé sur les impôts locaux. Passons à la bricole. Tu as des préférences ou je te fais la panoplie? Prise de court, Elsie ne sut que lâcher, va pour la panoplie. Missy se révéla d'une prodigieuse dextérité, et malgré ses préoccupations, la jeune fille ne put s'empêcher de crier son plaisir à 3 reprises. Vers minuit, l'androïde lui proposa une collation et brancha l'écran du téléjournal dissimulé derrière un chrono pivotant. Elle sursauta. De toute dernière minute, disait le défilement des lignes bleuâtres. Rebondissement dans l'affaire Léonora. Un mort retrouvé au domicile de l'habilleuse de la danseuse étoile. Il s'agirait d'un vigile connu des services de police et dont l'emploi officiel aurait consisté à assurer la protection rapprochée des vedettes. L'homme a eu le crâne fracassé, probablement au moyen d'une barre de fer. D'après les enquêteurs, il semblerait que la victime ait tenté de provoquer les aveux de l'étrange jeune femme, mais que celle-ci ait été secourue par un tiers. Quoi qu'il en soit, Elsie Villog demeure introuvable, d'aucuns disent en fuite. Dans certains milieux du spectacle, on estime que la complicité de cette dernière et sa collusion avec le groupement terroriste qui s'est tristement illustré au cours de la journée d'hier ne font plus désormais aucun doute. Et l'on parle de plus en plus d'un possible racket de la beauté. Affaire à suivre. Elle ferma les yeux, digérant l'information. Pour avoir fait si vite, il fallait que quelqu'un ait prévenu la police. Le second tortionnaire probablement, celui qu'elle avait aspergé de produits multipliants. L'étau se refermait. Sans appui, sans argent, elle ne pourrait défier la meute très longtemps. Elle se sentit lasse, avala le reste de son repas par précaution et retourna s'allonger. Le visage de Missy creusa son chemin entre ses cuisses, mais elle la repoussa prétextant qu'elle voulait dormir. L'androïde sourit, s'étendit à ses côtés, posa une main sur son ventre et mima le sommeil. Mécanique docile, conçue pour obéir sans jamais s'étonner. Elle fixait le plafond, quêtant désespérément une solution. Quelque part dans l'obscurité, le tic-tac enregistré d'un faux réveil à ressort rythmait les secondes. Vers 3 heures, elle se leva, marcha vers la fenêtre dont elle tira les rideaux. Comme elle s'y attendait, il s'agissait d'une ouverture factice. Derrière les vitres, une photographie en relief restituait un paysage vieillot de toits et de cheminées. La pièce n'était qu'un sas au mur peint. Elle passa dans la salle de bain faussement vétuste où attendaient un baquet de bois et un broc, chercha vainement un placard. Rien. Elle revint dans la chambre, ouvrit les tiroirs d'une commode. Cette fois, elle mit la main sur un assortiment de lingerie, de vêtements fantaisistes et de perruques. Les accessoires de Missy. Combien de temps dure la désinfection, s'en quitte-t-elle? De 10h30 à 20h, j'en profite pour recharger mes batteries. Elle montrait une prise sur le mur. Pendant la désinfection, la porte reste ouverte? Absolument pas. Le battant est maintenu fermé par un système hydraulique. Personne ne peut plus ni entrer ni sortir. La pièce est totalement étanche. Mais ne crains rien, mon chou. Je n'oublierai pas de te réveiller avant. C'est la super sécurité, je t'assure. Il n'y a jamais eu un seul accident. Viens, tu es trop nerveuse. Je vais te faire une pourlèche de première. Elle s'y haussa les épaules. Les instructions de la plaque émaillée semblaient prouver que le studio de prostitution avait été conçu pour fonctionner en autarcie complète. Personne ne venait relever l'argent puisque la prestation était gratuite. Aucun réparateur n'effectuait de tournée d'entretien puisque Missy se reconstituait d'elle-même. Là était la solution. Elle s'agenouilla sur le faux plancher, fit le tour des plinthes. Les évents prévus pour la diffusion du gaz stérilisant se trouvaient là. Elle dénombra une douzaine de trous de la grosseur d'une noix. Il y en avait 6 autres dans la salle de bain. Dans la commode, elle prit des serviettes éponges, les déchira et les mouilla, puis, les roulant en boule, les tassa dans chaque tuyau. S'aidant d'un manche de brosse à cheveux, elle s'appliqua à faire de chaque boulet de charpie un noyau compact. Il lui fallut plus d'une demi-heure pour venir à bout de son travail. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme. Si les bouchons improvisés sautaient sous la pression, elle périrait en quelques minutes, les poumons brûlés par l'asphyxie. Elle s'assit sur le sol, les genoux douloureux. Après une courte hésitation, elle retourna dans la salle de bain et dégagea 2 évents. Mieux valait ménager une soupape de sécurité. Le trop-plein de gaz se déverserait dans les locaux aux ablutions, allégeant du même coup la tension du réseau. Elle ferma la porte et en obtura les jointures avec un drap mouillé. Missy la regardait faire d'un œil atone. Son programme limité aux joutes sexuelles manquait visiblement d'éléments pour apprécier la situation présente. Elle-ci ne songeait pas à s'en plaindre. Reprenant son souffle, les reins sciés par une crampe, elle alla ouvrir la porte du réfrigérateur déguisé en bahut. Il y avait suffisamment de conserves pour soutenir un siège. Par acquis de conscience, elle demanda « Qui ramène les provisions ?»« Moi. J'ai une carte de crédit magnétique dans l'ongle de mon pouce droit. Mais ne crains rien. Il y a bien assez de nourriture pour ton petit déjeuner, mon chou. » Elle s'y soupira d'énervement et vint s'étendre sur le lit. Le sort en était jeté. Elle ne pouvait pas courir le risque d'affronter l'extérieur en plein jour, alors que la police et les nervis de l'agence de protection des stars arpenteraient les rues. Quant aux caves, aux parkings et aux escaliers, c'est là qu'on la chercherait en premier. Non, elle avait choisi la seule solution valable. Pendant qu'elle réfléchissait, Missy reprit ses travaux pratiques. Déclenchant les vibromasseurs incorporés à chacun de ses doigts, elle s'attaqua au pubis de sa cliente, l'effleurant de toute la puissance de ses mains vombrissantes. Elle s'écria encore une fois, puis demanda grâce et s'endormit les cuisses serrées. À 9h, le robot la réveilla et lui proposa un bain à deux. Elle-ci ne répondit pas, se redressa et alla acquérir une grosse pendule de bronze qu'elle avait repérée la veille sur une console. Elle fut surprise par son poids et eut beaucoup de mal à la lever à bout de bras. Les muscles tremblant sous l'effort, elle bloqua ensuite sa respiration et abattit le bloc de métal sur le crâne de Missy qui se fendit avec un bruit d'œuf éclaté. L'androïde rôla sur le sol comme une marionnette privée de support. Une voix grésillante sortit de son dos, faisant sursauter la jeune fille. « J'ai le regret de vous annoncer que l'unité de plaisir numéro 55.033KH27 se trouve en situation de panne. Nasilla le cône d'émission logé sous l'omoplate gauche. » Les lobes moteurs A et B sont hors service. Le coordinateur dynamique général est enfoncé. Temps de réparation estimé à 23h37. Veuillez patienter en nous excusant pour cette interruption involontaire du programme de stimulation sexuelle. Merci. Elle-ci soupira douloureusement, poussa le corps déjeté du robot sous le lit et s'installa sur la couche aux draps froissés. Elle avait peur. À 10 heures, un autre appel fut diffusé, réclamant l'évacuation immédiate des lieux pour tout visiteur humain susceptible d'y séjourner. Ce message fut répété de quart d'heure en quart d'heure, jusqu'à ce que la lumière vire au rouge. Une sirène au timbre modulé se déclencha alors, entrecoupée du leitmotiv « Danger, évacuation immédiate ». Puis tout rentra dans l'ordre, et un affreux bruit de verrou annonça la fermeture des lieux. Elle s'y transpirait abondamment. Pendant quelques minutes, il ne se passa rien, et elle dut tendre l'oreille pour percevoir le chuintement du gaz derrière le battant de la salle de bain. Elle resta 1 heure paralysée, les yeux accrochés aux évents, persuadée que d'une seconde à l'autre, les bouchons de charpie allaient sauter sous la pression, mitraillant la pièce d'un concert de plops sonores. Mais son travail d'obturation tint bon, et elle se détendit progressivement. Vers le milieu de l'après-midi toutefois, des filets de vapeur grisâtre filtrèrent sous la porte du cabinet de toilette, et elle dut confectionner à la hâte d'autres boudins de tissu mouillé. Si infime fut-elle, la fuite alluma une insupportable brûlure dans ses bronches, et elle toussa près de 35 minutes, le visage noyé dans la masse molle de l'oreiller de dentelle. L'air conditionné ne fonctionnant plus, l'atmosphère de la chambre devint rapidement irrespirable. Étendue sur le dos, elle s'y haletait comme un marin prisonnier de la carcasse d'un sous-marin échoué, et tout son corps brillait de sueur grasse. 20 heures, avait dit Missy. Elle se demanda si la faible teneur en oxygène de la pièce lui permettrait d'attendre si longtemps. Elle finit par sombrer dans une sorte de torpeur hallucinée, due en grande partie à l'excès de gaz carbonique charrié par son sang, et passa sans transition de la veille au cauchemar. Enfin, vers 20 heures, le gaz fut aspiré et l'air conditionné se remit à circuler avec un chuintement doux. Cette subite fraîcheur la fit claquer des dents. Réveillée, elle éclata d'un rire hystérique incontrôlable, pleura, rit encore, puis s'étouffa. Enfin, elle passa dans la cabine d'ablution et s'assit dans le baquet. Elle se savonna longuement, se sécha. Il lui fallait maintenant passer à la deuxième partie de son entreprise de camouflage. Il n'était pas question de rester frileusement tapis dans le studio. Missy avait probablement des clients attitrés, des habitués, qui ne manqueraient pas de se plaindre à la mairie si d'ici 24 heures, ils trouvaient le trottoir vide. Elle devait jouer le jeu jusqu'au bout. Elle se fit un chignon, enfonça sur son crâne une épouvantable perruque orange et coula son corps dans l'un des costumes de cuir du tiroir. Cela n'alla pas sans mal, car elle avait les hanches et la poitrine plus fortes que le robot aux proportions filiformes. Grâce aux lacets, qu'elle s'abstint de tirer à fond, elle parvint cependant à faire illusion. Elle retapa le lit, cacha les boudins de tissu mouillé, puis mangea et but copieusement pour ne plus penser à ce qu'elle allait accomplir. À 22 heures, elle libéra la porte, descendit dans la rue et se planta à l'endroit même où elle avait rencontré l'androïde. Le résultat ne se fit pas attendre. 10 minutes plus tard, un quinquagénaire obèse sortait de dessous un porche. Il hésita, faillit faire demi-tour, acheta un journal au distributeur automatique pour se donner une contenance et se résolut enfin à traverser la chaussée. « Bonsoir, » fit-elle en espérant ne pas trop bafouiller. « Tu viens pour la bonne secouade ?» L'autre se racla la gorge. Son visage gras était sillonné d'une multitude de vaisseaux éclatés qui formaient autant de taches violettes. « Missy n'est pas là ?» attaqua-t-il. « C'est que... Missy est en révision. Sa vitesse d'autoréparation devenait trop lente. Je suis... cloqui. » Une nouvelle unité au fini plus réaliste. Je peux transpirer, saigner, ma peau prend bien les bleus, et je sais pleurer. Tu sais le mot de passe ? Il lui tendit le jeton qu'il tenait à la main. Il était chaud, poisseux. Elle fit mine de l'enregistrer. On y va ? Il la suivit sans protester. Ce fut une nuit très calme. Par bonheur, elle réussit à le faire boire. Lorsqu'elle le hissa sur le lit, l'alcool l'avait en grande partie privé de ses moyens. Il finit par basculer à la renverse en grommelant des obscénités et ne tarda pas à ronfler. C'est à ce moment qu'elle aperçut le journal sur le sol, avec son titre en lettres hautes de 5 centimètres. « Les terroristes parlent ». Elle s'en saisit. À en croire les messages communiqués aux différentes agences de presse, L'idée d'un racket doit être définitivement écartée, disait le signataire de l'éditorial. À 15h, en effet, les auteurs des horribles attentats, qui ont secoué ces derniers jours le monde du spectacle, ont pris la parole sous forme d'un manifeste remis à notre journal ainsi qu'à plusieurs de nos confrères. Les agresseurs, qui revendiquent désormais l'appellation de vandales, comptent expliquer de cette manière au public que leur action purificatrice, je cite, « ne repose sur aucune visée lucrative, bien au contraire ». Je laisse à nos lecteurs le soin de juger. Mais il semble bien que ceux qui voyaient dans les mutilations infligées à la grande Léonora ou à Gwenola Maël une punition de créancier à mauvais payeur, se soient bel et bien trompés. Les motivations des vandales sont, sinon religieuses, du moins philosophiques. Cet aspect nouveau du dossier, loin de clarifier l'affaire, la rend encore plus angoissante. Car il n'est rien de plus dangereux qu'une poignée d'illuminés poussés par la folie d'une conviction. Quant aux théories mises en avant, que notre public se donne la peine de les étudier. Elles lui feront dresser les cheveux sur la tête. La police restera-t-elle encore longtemps les bras croisés ? Elsie se passa la main sur le visage. Ses yeux se brouillaient. En page 2 s'étalait la photo du manifeste. Un simple paquet de feuilles grossièrement ronéotypé dont on avait reproduit le contenu un peu plus bas. Elle lut. Le vandalisme. Définition et objectif. Le vandalisme repose sur la volonté d'abolir toute différence dans la répartition des dons créateurs. Refuse le génie ou le talent qu'il considère comme un scandale et une tare, comme une anomalie suspecte et probablement dangereuse, puisqu'elle n'est le fait que de quelques-uns. En règle générale, le vandalisme refuse le coup d'éclat, le brio, prône le nivellement, l'uniformité, la normalisation rassurante. Les artistes sont tous des détraqués, clamait le pamphlet, et l'art n'est que le produit d'une névrose. Baudelaire était syphilitique, Rimbaud homosexuel, Poe alcoolique, Nerval fou, comme Maupassant. En conséquence, le vandalisme refuse de se prosterner devant les idoles, les vedettes, fustige et voue à l'anéantissement tout ce qui sort du rang, tout ce qui se fait remarquer, tout ce qui échappe à l'ordre, à la médiocrité, tout ce qu'il dénonce comme étalage, prétention, orgueil. À la suite de cette diatribe, le théoricien inconnu exaltait sur plusieurs colonnes les vertus de l'humilité, la grandeur du banal. « Il faut que les malades se taisent, criait-il enfin. Se fassent oublier, censurent et refoulent ce qu'ils osent appeler don, et que nous nommons à juste titre manifestation d'une différence obscène. C'est dans ce but que nous normaliserons tous ceux qui tentent de se singulariser à la face du monde. Chanteurs, pin-up, virtuoses, divas, champions sportifs de toute catégorie. Bref, tous ceux qu'on a élevés au rang d'idole. Le combat ne fait que commencer. Elsie lâcha le journal. C'était pire, pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle dut se retenir pour ne pas hurler.